I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids The Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et cette semaine je suis avec mon ami Rafik. Salut Rafik.
Salut Stéphane.
Pour parler de NBK.
Ouais.
C'était le nom acronyme de Natural Born Killers, donc tueur né d'Oliver Stone.
Chez nous, ça s'appelait pas TN, ouais.
Non, c'était c'était tueur né. C'était arrivé avec la grosse controverse des États-Unis, je me rappelle. Donc c'est un film dont on a beaucoup parlé quand c'est sorti en 1994. On n'en parle plus trop aujourd'hui, mais ça reste quand même en fait un film important à la carrière d'Oliver Stone. Et on s'est dit que ce serait pas mal de revenir dessus.
Non, on s'est dit que ce serait pas mal de revenir dessus parce qu'on est à Steroids et que tu cherchais un film des années 90 dans lequel il y avait des coups de shotgun. Donc
et il y en a plein dans celui-là en plus. Voilà. Des tonnes.
Voilà.
Donc voilà. Donc est-ce qu'on pitch le film, bah, Rafik, vas-y, tu vois.
Est-ce qu'il y a besoin de pitcher? Bah, c'est quoi? C'est la cavale de deux jeunes amants qui ont une certaine facilité à zigouiller tout ce qui se met en travers de leur chemin, qui sont poursuivis donc à la fois par des flics, mais aussi par un journaliste de télévision qui veut absolument faire un scoop, les transformer en superstars. Qu'est-ce qu'on peut dire?
En gros, voilà, le film, ils se retrouvent en tôle.
Ils sont très, très amoureux l'un de l'autre.
Ah, c'est ça. C'est ça que tu voulais rajouter.
C'est très fleur bleue, voilà. Et ils butent 50 personnes avant même d'être sortis de l'état où ils ont démarré leur périple.
D'accord, ok. Toi, t'as retenu les informations dans le désordre du film. Ok, non, bah en fait, en gros, ça, c'est surtout que le film est aussi connu pour sa énorme scène d'évasion de tôle à la fin qui dure quasiment une heure, quoi, et qui était assez impressionnante pour l'époque et qui est encore aussi assez impressionnante aujourd'hui, je trouve, quand tu revois le film, il y a une ampleur. Parce que moi, il faut être honnête, c'est un film que j'avais pas trop aimé à l'époque, Tuerné.
Pareillement, mais bon, c'est intéressant de se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on en attendait réellement, parce que moi je sais que Oliver Stone c'est un type avec lequel j'ai eu un rapport un peu en dents de scie. J'étais pas un fan, personnellement j'aimais pas Platoon, j'étais pas impressionné non plus par Wall Street, tout ça, ça avait été des gros succès, c'est vraiment les films qui l'ont installé. Par contre j'ai été complètement soufflé par Né un 4 juillet, qui semblait pour le coup sortir de nulle part, et surtout en termes de mise en scène, puisque à cette époque-là, il avait vraiment décidé de faire de Né un 4 juillet une sorte de faux retour au classicisme hollywoodien des années 60. On a l'impression de revoir des images de mélodrames de Vincente Minnelli ou William Wyler, mais en mode Furax, avec une caméra libérée. Tu vois, c'était des films en beau cinémascope, bien cadré, mais en même temps extrêmement dynamique. Et alors, il a mené ce style au sommet avec JFK, quoi, qui était vraiment son champ d'Amérique. Et juste avant Tuerné, il se lance dans ce projet, là pour le coup complètement oublié, hein, entre ciel et terre, Heaven on Earth, qui a été un échec, et qui est, pour moi, c'était sa façon à lui d'essayer de se racheter un pardon, on va dire, par rapport à son rapport complexe avec le Vietnam.
Ouais.
On reviendra dessus parce que je pense qu'on peut pas parler de Tuerné sans rappeler aussi d'où vient Oliver Stone, quoi, et qu'est-ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un qui, même s'il a pas beaucoup été très explicite là-dessus, on sait qu'il a dû tuer des gens.
Il a été plutôt explicite, hein.
Enfin, moi, je me rappelle pas le souvenir d'avoir.
Je me rappelle qu'il avait dit, bien sûr, j'ai tué. Enfin, quand on lui a posé la question, il a pas répondu en fait en direct, tu vois. Oui. Il a juste dit, j'étais au Vietnam, qu'est-ce que vous croyez?
Il était au Vietnam, c'est ça. Tu pouvais tuer en situation de légitime défense, comme tu pouvais tuer en étant l'agresseur. Donc, c'est là où c'est compliqué. En tout cas, bon, il y avait certainement des choses à se faire pardonner, et c'est vrai que
c'est le sujet du film aussi, hein, Tuerné, quoi.
Voilà. Et donc le truc avec Kevin Hart, c'est que le tournage avait été assez compliqué, assez cauchemardesque, et par contre la réception a été complètement vraiment passé sous
inaperçu,
le tapis. Ouais, passé, voilà. Ce qui est dommage aussi, parce que c'était quand même un des premiers films à essayer de mettre en scène une personne non blanche dans le cinéma hollywoodien à gros budget. Moi, personnellement, j'avais trouvé ça plutôt bien fait. Le film avait des défauts, mais j'avais plutôt apprécié cet équilibre entre l'excès, typiquement Oliver Stone, et une forme de classicisme et de désir d'élévation, on va dire. Quoi. Toujours est-il que voilà, Tuerney, le projet en fait lui arrive entre les mains au moment où il est en rupture avec le public et avec les majors du fait de cet échec, et en plein divorce avec sa femme. Donc c'est une sale période pour lui, et je pense qu'il va pas mal projeter là-dedans dans ce scénario qu'on doit à un petit jeune sympathique.
Alors, tu fais la blague, mais effectivement on le doit à Quentin Tarantino, mais la blague c'est que c'était un petit jeune sympathique dont on ne connaissait rien en fait à l'époque de la mise en production plus ou moins de Tuerney, quoi.
Voilà, et là je vais ramener à ma propre biographie. J'avais un ami au tout début des années 90 qui s'appelait Thomas, qui prétendait connaître beaucoup de gens du cinéma, dont Oliver Stone. J'aimais beaucoup Thomas, mais je pensais que en fait qu'il était un peu mytho. Et un jour chez lui, en fait, il me sort un script en me disant tiens, il est en train de bosser là-dessus, Oliver. Et effectivement, le script était annoté dans tous les sens. Et c'est la première fois que je vois ce titre, en fait, Natural Born Killers. J'avais pas la moindre idée de ce que j'avais entre les mains. Il m'a fallu attendre 3 ans pour réaliser que Thomas ne me mentait pas. Il connaissait bien Oliver Stone et on avait bien la preuve physique et concrète. Enfin, voilà, ça a été mon premier contact avec le nom même de Quentin Tarantino. C'était de le voir inscrit sur ce papier.
C'est ça, parce que, en fait, alors, pour resituer juste très rapidement, le Quentin Tarantino d'avant Reservoir Dogs et Pulp Fiction, notamment, puisque c'est, faut le souligner, hein, Tuerney s'est sorti exactement la même année que Pulp Fiction, quoi. Donc forcément, il y a l'idée que lui, effectivement, il a écrit un scénario qui a beaucoup été réécrit par Oliver Stone. Il s'en est lui-même beaucoup plaint, Tarantino. Mais à l'époque, en fait, où il écrivait le film, il l'a vendu pour 10 000 euros,
10 000 balles, ouais.
10 000 dollars, je crois, un truc comme ça, quoi. Et du coup, bah, comme ça se fait souvent à Hollywood. Bah quand le scénariste vend son projet, il perd plus ou moins les droits dessus, en fait. Il vend tout. Donc les studios ou même les réalisateurs indépendants s'arrogent le droit d'en fait de réécrire le film s'il faut, quoi. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé sur Tuerney.
Et ça a été contractualisé. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu, par la suite, ils ont tellement retravaillé ce script, il a été tellement tiré dans tous les sens que dans le générique final, Tarantino n'est plus crédité qu'en story.
Alors ça, c'est du fait de Tarantino. Mmh. C'est-à-dire que c'est Tarantino qui a demandé, justement, à cause des réécritures, à ce qu'il ne soit plus crédité en tant que scénariste, mais vraiment en tant que, comment dire, initiateur de l'histoire. On peut lire, hein, le scénar, il l'a fait publier, d'ailleurs, hein, Tarantino, en anglais, dans les années 2000.
Après de longues années de lutte avec les producteurs, qui lui avaient retiré le droit d'exploiter.
Ça va être assez marrant, parce que ça va être une section du podcast, on va un petit peu en parler. Mais pour rester sur cette époque-là, bah, en fait, on peut le lire. Et en gros, le truc qui est intéressant avec Tuerney, c'est que fondamentalement, c'est un film qui ressemble pas mal à... En fait, déjà, il y a pas mal de choses, quand tu lis le scénario, qui vont se retrouver dans les films de Tarantino plus tard, quand ils n'ont pas été utilisés dans Tuerney. Notamment certaines chansons, par exemple. Il y a ce morceau dans Jackie Brown qui s'appelle Long Time Woman, quand elle arrive en tôle, en fait, quand elle est envoyée en tôle. Et en fait, Mallory, le personnage de la tueuse en série, en fait, quand elle est en tôle, elle chante. Il y a des moments où elle chante, en fait, des chansons, etc., etc. Et ça faisait partie des chansons qu'elle était censée chanter dans le truc. Comme ça n'a pas été utilisé dans Tuerney, il l'a remis dans Jackie Brown. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas de trucs. C'est-à-dire que ça ressemble pas mal à True Romance aussi. Le scénario de True Romance, hein, c'est-à-dire à la fois dans l'histoire d'amour un peu, rock'n'roll, quoi, le côté Bonnie and Clyde des personnages, quoi, sauf que là, c'est des tueurs en série, dans la structure. C'est-à-dire que c'est raconté, à part la scène d'ouverture qui est la même, hein, à quelques détails près, si tu veux, dans le film et dans le scénario, le reste du film, en fait, est raconté dans une structure, on passe directement en prison. Alors que la prison, dans le film d'Oliver Stone, ça arrive au bout de 3/4 d'heure, en fait, je crois. Donc du coup, il y avait en fait une volonté de raconter en narration morcelée, ce qui faisait beaucoup à cette époque-là, ce qu'il a fait avec Pulp Fiction, évidemment. Et tout ça, ça a été ramené à quelque chose de linéaire. Mais effectivement, lui, il a vendu les droits à deux producteurs, notamment, alors le deuxième prénom, je me souviens plus, mais le Don Murphy.
Don Murphy et Jane Hampshire.
Ouais, c'est ça, voilà. Et en gros, eux-mêmes ont revendu le scénario à la Warner, qui du coup a intéressé Oliver Stone sur l'affaire. Et après, oui, le film s'est fait sensiblement 2-3 ans après, ils ont commencé à tourner, quoi. Mmh. Mais très vite, en fait, Tarantino s'est désolidarisé du film. C'est-à-dire que voilà, il a demandé un crédit en tant qu'effectivement initiateur de l'histoire. Mais c'est pas seulement ça, c'est que quand le film est sorti, en fait, il a carrément, puisqu'en fait, il sortait son film en même temps.
Ouais.
Donc, il faisait la promo de Pulp Fiction, qui venait de gagner la Palme d'Or, hein. Et il était littéralement en train de taper sur le film, en fait, dans toute la presse, en confirmant qu'il ne l'avait pas vu, en fait, hein. Ouais. Je me rappelle d'une interview de lui dans Les Inrocks, à l'époque, de la sortie de Pulp Fiction, où le journaliste lui pose la question sur Tuarnay, il dit non, je préfère aller voir Color of Night. Le film qui sortait le même week-end, tu vois. Mais il avait dit cette merde de Color of Night.
Et ça, bah, Oliver Stone, il en a beaucoup voulu. Bon, déjà, il s'est défendu de problématiques, de réécriture. Enfin, parce que, enfin, voilà, Stone déjà rappelait que ils avaient toutes les traces écrites des deals qui étaient passés avec Tarantino et que eux, ils ont fait les choses correctement. Que le mec était au courant, il sait comment ça marche à Hollywood et que, en définitive, c'est la vision du réalisateur qui prime. Que son projet de scénariste, il le verrait pas à l'écran. Stone s'est pas privé de rappeler aussi qu'il avait été scénariste, il sait ce que c'est que de voir son travail réécrit par d'autres, mais que ça fait partie des règles du jeu. Et surtout, il était choqué de dire on fait pas ça. Dans le milieu du cinéma, on se dope pas les uns sur les autres. On a suffisamment à gérer avec la critique qui nous tombe dessus à bras raccourcis pour pas commencer à s'envoyer des scuds par une interview interposée. Quoi.
Ceci étant dit, on en avait parlé dans le podcast sur William Lustig. Apparemment, il avait exactement le même problème avec Lustig sur Trouble Man, quand Lustig a demandé des retouches. Tarantino, alors apparemment, il était beaucoup plus cool avec Tony Scott quand Tony Scott lui a dit qu'il voulait réécrire le film. Mais c'est vrai que, en fait, ses expériences, plus le succès de ses propres films, lui ont permis à lui, en fait, de décider de faire les films qu'il voulait faire, de les écrire de la manière dont il voulait les écrire. Et force est de reconnaître que c'est des films qui ressemblent à Quentin Tarantino, plus qu'autre chose, en fait.
Hein. Parce qu'il en est le réalisateur. Ouais. Ouais. Donc le fait est que voilà, Tuarnay en définitive n'est pas un film de Tarantino. C'est manifeste, hein, et effectivement dès le début, même si les dialogues n'ont pas forcément été changés, et que c'est
Il y a pas mal de dialogues qui ont été changés. J'ai relu le scénario pour j'ai revu deux versions du film
sur la scène d'ouverture.
Scott. Ouais, quelques trucs en fait.
Parce que la dynamique de la scène d'ouverture reste scénaristiquement une dynamique à la Tarantino qu'on ne connaissait pas vraiment encore à l'époque, mais qui s'est confirmée par la suite, puisqu'il y a une espèce de retournement de situation, c'est-à-dire qu'on a une personne qui nous est présentée comme une victime potentielle qui s'avère être le prédateur. Quoi. Donc ça, c'est, structurellement, c'est du Tarantino. Par contre, visuellement, on est complètement ailleurs d'emblée.
Et c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis, c'est que justement par rapport à cette scène d'ouverture. Alors Tarantino raconte qu'il aurait vu le film jusqu'au moment en fait où il y a la scène avec Rodney Dangerfield, où là en fait il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait. C'est-à-dire que toute la scène en fait entre de l'enfance, enfin pas de l'enfance mais de l'adolescence de Mallory, où elle a été molestée par son père, etc., qui est interprétée par Rodney Dangerfield, qui est un gros comique américain de stand-up, etc., de l'époque, quoi. C'est tourné en sitcom. Donc ça se fout de la gueule de I Love Lucy, Ma sorcière bien-aimée, tous ces trucs-là, etc., tirés, enregistrés, tout,
c'est quoi. Le truc s'appelle I Love Mallory.
Voilà, c'est ça. Et en gros, apparemment, Tarantino se serait barré. En fait, au moment où il a vu ça, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Et ça arrive très vite, hein, dans le film, quoi. Ceci étant dit, quand tu lis son scénario, la scène d'ouverture, il y a les plans. Par exemple, il y a écrit PO, parce qu'il détaillait beaucoup, en fait, ses scénarios à cette époque-là. Il y avait écrit POV de la balle qui part, en fait, la cuisinière, tu vois. POV la caméra suit le couteau qui traverse la vitre. Et ces plans sont dans le film. Mais sauf qu'en fait, ils sont faits à la Oliver Stone. C'est-à-dire que, Oliver Stone a clairement voulu faire une satire. Ça, c'est un truc qu'il a totalement assumé. C'est un truc qui n'avait pas été compris quand le film est sorti, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, par beaucoup de monde, quoi.
Compris ici, pas accepté, mais
voilà.
Je pense que personne n'était dupe de ce que le film prétendait être, en fait. Hein. Après, chacun jouait son rôle en faisant les vierges effarouchées, oh mon Dieu.
Peut-être, bien sûr, mais en tout cas, le truc, c'est que là, quand je parle de satire, c'est que dès la scène d'ouverture, donc le plan du POV de la balle, en fait, c'est quand la balle part. C'est un plan classique, hein, qu'on a vu depuis les années 90 et tout. La caméra la suit. Et en gros, elle s'arrête, la nana fait une grimace pas possible, et après, sa tête explose, quoi. Tu vois, quand on cut et tout, et qu'on passe au plan suivant, quoi. Et effectivement, là, t'es en train de te dire, OK, on n'est pas dans un film sérieux, tu vois. Mais en fait, le film a été pris très sérieusement, quoi. Et le plan était chez Tarantino, mais pas l'intention du plan. C'est
pas
ça
l'intention
qui est,
du
voilà.
plan, pas le côté, effectivement, commentaire sur l'image, en fait.
Voilà, c'est ça.
Parce que la réécriture s'est faite avec au départ l'idée d'en faire un film d'action. Au départ, Stone était parti sur un film de genre. Hein. Pour lui, il allait faire un film de gangster classique à la Bonnie and Clyde, adapté aux années 90. Je crois même qu'il avait évoqué Schwarzenegger.
En fait, il disait je veux faire un film dont Schwarzenegger serait fier.
Voilà, c'est ça.
Qui est très ironique comme phrase.
Oui, parce que les films de Schwarzenegger à l'époque étaient des films violents, mais d'une violence décomplexée qui était presque considérée comme du cinéma familial. Voilà, j'invite les gens à se mater Total Recall et à se dire que on allait avec ses gamins de 6 ans voir ce genre de film à l'époque où un escalator entier se fait déglinguer
et les mecs marchent sur les cadavres et tout
ça.
Ouais.
Et donc il était parti là-dedans parce qu'il considérait jusque-là que voilà qu'il avait toujours fait des films de gangsters avec des twists quelque part, parce que Scarface c'était un film de gangster classique mais rattrapé par l'actualité du pays. Là, pareil pour l'année du dragon qui posait la question de l'immigration de front. Voilà. Et là, tout d'un coup, avec Tuerné, c'était non, je vais faire effectivement du gun crazy et du Bonnie and Clyde, c'est-à-dire en gros cette cavale d'amants fous et meurtriers voilà, à l'ancienne.
Sauf qu'il faut resituer justement le contexte de l'époque dans laquelle c'est sorti, quoi.
Mais voilà, mais sauf qu'on est au début des années 90 et les États-Unis sont à cette époque-là en train de vivre les début, on va dire, de la télé poubelle.
Ouais, Trash TV, ouais, c'est ça.
Avec notamment l'explosion de CNN et de l'information en continu qui fait du coup de l'information un pur spectacle et très vite de réaliser que la violence voire l'extrême violence vend très bien et permet de caser pas mal de pages de pub. Il y a alors je sais pas si Stone l'a conceptualisé comme ça, mais à l'époque la télévision américaine est aussi très au fait des débuts de ce qu'on appelle le neuromarketing, qui consiste en fait à d'une certaine façon à assommer le spectateur, à endormir son cerveau, à l'anesthésier par de la stimulation à la fois visuelle au niveau des lumières et des flashs et des génériques et des jingles et tout ça, mais aussi de la violence. Et cette anesthésie permet ensuite au message publicitaire de rentrer beaucoup plus profondément et d'atteindre le cortex bien planqué, tu vois. Ce que chez nous l'autre crétin de TF1 appelait le temps de cerveau disponible.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Bon, et du coup,
Étienne Moujotte.
C'était Moujotte, voilà. Ouais. Mais qui d'ailleurs ne mentait pas quand il.
Non, non, voilà, c'est même extraordinairement honnête de la part de ce mec, quoi, tu vois.
La phrase, c'était quoi ? Mon boulot, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, voilà.
Ce qui était c'était vrai, Lelay, je crois qu'il avait dit.
Comment ? C'était Lelay, c'était Patrick Lelay, ouais, bon. Enfin, l'un ou l'autre. Hein.
Mais ça faisait référence au neuromarketing. Et donc, alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement CNN qui à l'époque fait son beurre avec l'affaire O.J. Simpson, avec Tony Harding, avec le massacre de Waco aussi, qui était un truc complètement aberrant. Ouais. On l'a oublié aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, t'as quoi, une cinquantaine de civils qui ont été littéralement brûlés vifs par le FBI, avec carrément les agents qui posaient fièrement sur les cadavres des gosses, enfin, un truc. Avec le recul, tu dis waouh. Qu'est-ce qu'on avait eu ? Il y avait eu un autre truc. Il y avait Rodney King.
Rodney King,
émeutes de Los Angeles, etc. Enfin,
et surtout c'était la façon de les traiter, c'est-à-dire en fait, alors évidemment, t'avais, on va dire des médias plus dignes que d'autres, on va dire sur certains trucs là, mais t'avais effectivement une façon de vendre enfin comme tu l'as dit toi-même en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en fait marchandiser, enfin comment tu dirais, tu vois,
oui,
les infos,
faire du marketing, ouais,
faire du marketing autour des infos télé quoi. Et en fait le truc c'est que ce qui est comment dire, enfin ce qui aujourd'hui a atteint un paroxysme différent, hein, on peut voir ça avec les réseaux sociaux et tout quoi.
Ouais.
Mais le truc c'est que à cette époque-là, c'était clairement au centre. Il y avait tout un tas de dispositifs de montage, en fait, de trucs, etc., pour jouer avec ce genre de trucs. Et c'est symbolisé dans le film par un personnage qui s'appelle Wengel, qui est interprété par Robert Downey Jr., qui je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il a pris un accent australien.
Parce qu'en fait, il a, pour se former à son rôle, il a suivi ce qui était à l'époque un des spécialistes de la trash TV australienne, un mec, justement, qui faisait des scoops aventureux. Et donc, il a suivi ce mec pendant je sais pas combien de temps, et il a ensuite
il a piqué son accent
ouais. À la Robert Downey Jr. dans Tropic Thunder.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au moins ça donne un truc un peu rigolo parce que ils sont foutus de la gueule, il s'est foutu de sa propre gueule quelques années après quoi, tu vois. Mais qui est un personnage. Alors, il y a ce truc en fait, on va parler peut-être du traitement d'Oliver Stone autour du film, hein, c'est-à-dire que en gros Tarantino reprochait notamment un des trucs qu'il a reproché parce que oui, il est allé taper sur le film quand on lui posait la question. Non, c'est pas le seul à l'avoir fait en promo d'un truc, et surtout au moment où ça sort. C'est quand même arrivé quelques fois dans l'histoire du cinéma. Et je pense pas en fait que, comment dire, enfin moi je me souviens des interviews où il disait, moi en fait ils ont réécrit mon scénario pour en faire un film d'Oliver Stone. Et un film d'Oliver Stone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un film de gros bourrin qui en fait n'est absolument pas subtil dans son message. On peut pas trop lui enlever ça non plus à Tarantino, parce que c'est pas tout à fait faux non plus quoi. C'est-à-dire que en gros,
je sais pas si la subtilité est vraiment
le fond de Tarantino.
Non, mais l'intention de Stone quand il aborde un film comme ça.
Quand je parle de subtilité, c'est aussi par une question de traitement. On parlait de Wengel, tu vois, ce qui est quand même un personnage qui est au-delà de la caricature, même pour les gens qui ont connu la trash TV de l'époque quoi. Mais pas que le personnage du du flic sadique qui est interprété par Tom Sizemore si tu veux bon c'est pareil, tu vois, ils en font un espèce de pervers taré, tu vois.
Tommy Lee Jones
qui est en préparation de Batman Forever apparemment, tu vois,
prison, ouais.
Parce qu'il est vraiment en train de partir dans tous les sens quoi, ce qui est un peu choquant quand t'as vu Under Siege mais quand t'as vu les films d'avant quoi, et voilà, donc en fait il y a un espèce de truc où l'idée c'est de pousser la satire à fond. Pour le coup, Mickey et Mallory sont les seuls personnages à peu près ancrés, à mon sens.
C'est vraiment le
des bouseux quoi, des persos de bouseux.
C'est le casting nickel effectivement, parce qu'ils ont été choisis spécifiquement pour retrouver cette qualité white trash, parce qu'effectivement ils ont tous les deux, ils ont pas les traits de comédiens hollywoodiens qui ont été élevés dans les piscines de Beverly Hills quoi. C'est vrai que tu y crois.
Ce n'est que bon, c'est le cas de Lewis, mais
c'est vrai. Mais physiquement, en réalité, tu t'aperçois qu'elle a vraiment un côté white trash dont elle a joué par ailleurs. Ouais. Quand elle chante sur scène ces trucs de rock progressif à l'époque, elle est en train de jouer de ce côté white trash, de ce côté la meuf qui vit dans une caravane. Quant à Woody Harrelson, lui,
elle était dans Californie un an avant. Hein.
Et puis voilà, son père est tolard et tout ça. Donc, enfin, alors il se trouve que
son père, son père, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est un tueur à gages.
Alors justement,
c'est un peu flou.
Mais lui, il a été très clair là-dessus, Woody Harrelson, mais je sais que, enfin, ils en ont parlé avec Stone juste avant qu'il soit casté, parce que Woody Harrelson a toujours soupçonné son père d'avoir participé au meurtre de JFK. Ce qui ne fait que confirmer la thèse défendue par le film d'Oliver Stone, qui avait bel et bien plusieurs tueurs sur place quoi. Mais bon, le fait est que quand tu le vois arriver avec sa barbaque sur le dos, tu y crois quoi. Alors que donc au départ effectivement il avait pensé à Michael Madsen, dont le studio ne voulait pas.
Alors c'est pas seulement ça, c'est qu'en fait, et ça c'est assez marrant aussi, bon, on part un peu dans tous les sens avec les infos, mais le truc c'est que Tarantino a été tellement véhément avec les réécritures du film qu'il a en fait fait comprendre à tout son casting de Reservoir Dogs, si vous tournez dans Tuorné, en fait vous tournez plus avec moi. Et mine de rien, en fait, et je soupçonne en fait Oliver Stone d'avoir cherché à faire ça aussi dans le film, il y a des castings en fait qui viennent de Reservoir Dogs. Le flic en fait qui se fait découper l'oreille, Il est dans, il joue un des membres du journal de télé, je crois, de l'équipe de Wayne Gale, quoi. Il est dans Reservoir Dogs, il n'a jamais retourné avec Tarantino. Le mec qui fait la voix, Steven Wright, qui fait la voix, en fait, de la radio, qui a une voix très monocorde et très dépressive, en fait, c'est un comique. Dans Reservoir Dogs, il joue un psychiatre à la télé dans Tuerné. Et je pense qu'il y a quelque chose de volontaire chez Oliver Stone de. Peut-être au sens le plus, ça c'est une théorie de ma part, tu vois, peut-être au sens d'ailleurs le plus honnête et le plus, positif du terme, de rendre hommage à Tarantino, si tu veux, de prendre conscience que oui, on arrive après Reservoir Dogs, oui, en fait, on est en train de faire un scénario de ce type-là, on sait, parce que Reservoir Dogs, c'était pas encore Pulp Fiction, il n'y avait pas encore eu la Palme d'Or, mais par contre, il avait eu un énorme buzz, sur la scène internationale avant que ça sorte et tout, pendant un an. Donc, il était à Sundance, il était à Cannes.
À Cannes, ouais.
Voilà. Et donc, en fait, Tarantino, c'était quelqu'un qui était clairement en train d'émerger à ce moment-là. Et je pense, en fait, qu'il lui rendait hommage à travers, mais il a condamné ces acteurs-là à ne plus jamais tourner avec Tarantino.
Tout à fait.
Tim Roth, il me semble, était aussi prévu pour le film.
Et donc, effectivement, Matt Sen avait été, à un moment donné, envisagé. Non, je trouve qu'effectivement, Woody Harrelson et Juliette Lewis sont parfaits dans le rôle, ils sont ancrés. Voilà.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, tu crois à ces personnages-là, tu crois à leur histoire d'amour, tu crois en fait à ce qu'ils racontent, c'est-à-dire que t'as quand même une très longue scène, et je pense que ça rejoint ce que tu voulais dire aussi sur le fait qu'Oliver Stone a tué, tu vois, en tout cas au Vietnam, etc. T'as une très longue scène d'interview où le personnage de Woody Harrelson en fait se positionne au-dessus de la mêlée en disant moi je suis en gros un homme supérieur parce que j'ai accepté que la mort et le meurtre en fait fait partie en fait de mon, du monde dans lequel je vis, et je le stigmatise pas, je vois sa pureté et tout, quoi. Je pense que c'est un discours qui est complexe, tu vois, mais c'est un discours que tu peux entendre si c'est vraiment arrivé en fait par quelqu'un, tu vois, et de le mettre dans la bouche d'un tueur en série et lui faire dire un truc comme ça, bah en fait c'est lui faire dire entre guillemets pas une vérité, hein, c'est pas la question de dire une vérité, mais lui dire quelque chose de très controversé, si tu veux, tout en ayant la conscience que bah oui, il y a des gens qui tuent dans ce monde. Et que voilà, ça existe.
Les gens qui
tuent
dans ce monde, il y a des gens qui se repaissent de ces meurtres. Encore une fois, le film arrive à une période où, donc, on parlait tout à l'heure de la Trash TV, CNN et compagnie, mais il y a eu aussi précédemment presque 10 ans de vidéoclips, et MTV. Ça fait un moment qu'ils sont sur place et qu'ils ont complètement bouleversé le paysage télévisuel, justement par une forme de. Alors je vais paraître vieux con en disant ça, mais c'est pas mon intention, mais d'abrutissement par l'image. MTV, c'est du bombardement. À l'époque, c'est vécu comme ça. Hein, quand t'allumes ton truc et que tu tombes sur ces clips qui sont en fait des trucs faits un peu à l'arrache avec des vieilles images d'archives sur la, tu vois, où ils vont reprendre t'as Pom-Pom the Valium où c'est littéralement des images d'archives de guerre, d'avions qui envoient des bombes avec une nana qui est en train de danser au milieu. Enfin, tu te dis mais pourquoi je suis en train de voir des images de bombardement sur une chanson que t'es censé danser en discothèque avec tes amis, tu vois. Bon.
Et à tout prendre, il y avait un truc de comment ça s'appelle
C'était Pom-Pom Joe Jam. C'était pas Pom-Pom.
Bref,
un des deux. Bah, bon. En tout cas, on est dans une imagerie qui utilise le caractère.
Ouais, mais là, tu parles d'un clip en particulier.
Oui, mais c'est parce que il est symbolique, on va dire, de ce que MTV propose à l'époque. Même les trucs que nous on a aimé dans cette vague clipesque et de ce que cette chaîne proposait, même les dessins animés de Bill Clinton sont ultra violents. Et tout ça, c'est de la stimulation.
Après, il y avait beaucoup. On peut pas. Enfin, je veux juste un peu tempérer ce que tu dis parce que je comprends ce que tu dis aussi. Mais le truc, c'est que il y a aussi quand même beaucoup d'expérimentation. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de trucs expérimentaux là-dedans. Non, mais que en fait,
mais c'est pas de l'expérimentation soviétique à base de plans séquences de 7 minutes.
Évidemment, on parle pas de ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en fait, ça détonne aussi dans la télé de l'époque. Et on va même pas parler de la télé actuelle, en fait, si tu veux, de la télé de ces 30 dernières années depuis, quoi. C'est-à-dire, moi, je n'aurais pas jeté totalement. C'est-à-dire que ce qui était MTV jusqu'au milieu des années 90, avant que ça devienne de la télé-réalité, si tu veux, à la fin des années 90, début des années 2000.
C'était intéressant.
Il y avait des trucs intéressants, il y avait des choses à prendre en tout cas.
Parce qu'on est des gens d'image et que on était avides justement de ces trucs nouveaux. Mais il faut pas non plus sous-estimer le fait que ça nous faisait aussi kiffer parce qu'il y avait un truc sexuel là dans cette débauche de violence, qu'elle soit purement technique, c'est-à-dire au niveau du montage, etc., mais aussi graphique parce qu'on avait des images violentes. Les clips des Ramones qui cartonnent au début des MTV, c'est du gore, quoi. C'est des mecs, bon, bref. Et donc, le film s'inscrit aussi dans cet héritage assez explicitement. Encore une fois, dans ses films précédents, on l'a dit, notamment Né un 4 juillet et JFK, il a détourné les figures de style d'un cinéma classique pour montrer justement la violence sous-jacente qui n'était pas explicite dans les années 60. Donc voilà, tout d'un coup, t'as un super beau plan et un morceau de barba qui te saute à la gueule. Mais c'est ça, encore une fois, ça n'est que du détournement. Alors qu'avec avec Tuerné, il décide de s'inscrire résolument dans ce courant en fait de surstimulation et du coup de faire un film ouvertement clipesque. Mais où le clipesque fait partie du commentaire.
C'est-à-dire qu'il y a ça et il y a l'idée en fait, si tu veux, ce qui était faisable à l'époque, ce qui est beaucoup moins faisable, je pense, aujourd'hui. C'est en fait jouer avec les différents formats. C'est-à-dire que le film, alors bon, son chef-op c'est Robert Richardson, ouais, qui est un énorme chef-op. C'est assez marrant d'ailleurs, je trouve, que Tarantino, on va quand même si c'est pas un film de Tarantino comme tu l'as dit, à la fin il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants parce que
il a fini par
l'or. Déjà, c'est son chef-op depuis Kill Bill, hein, Robert Richardson à Tarantino, quoi. Mais c'est pas seulement ça. C'est que il y a des trucs que tu pourrais attribuer à Richardson et à Oliver Stone dans Tuer Né, qui sont en fait dans le scénar de Tarantino. Et c'est cohérent, c'est juste qu'ils sont faits encore une fois à la Oliver Stone. J'ai parlé de la balle, j'ai parlé du couteau. Mais par exemple, en fait, tout le générique qui est fait sur rétroprojection, c'est-à-dire avec les deux dans leur bagnole et la rétroprojection, qui est un truc qui ressemble beaucoup à Oliver Stone et Richardson, c'est dans le scénar de Tarantino. Ouais. Tarantino l'a utilisé à sa manière dans Kill Bill. Ou dans dans Pulp Fiction, ouais, notamment. Enfin,
Pulp Fiction,
voilà.
C'est du taxi, mais ouais, le truc c'est que lui, le Tarantino, il le fait en dans une posture cinéphile,
une révérence à un certain cinéma.
Voilà, c'est ça. Et là, c'est pas du tout le cas de Tuerné.
Mais sauf que c'est interprétable parce que le mot dans le scénar qui est assez intéressant, c'est outrageusement visible.
Ouais.
Et le truc, c'est que si tu lis ça dans l'esprit d'Oliver Stone,
outrageusement,
voilà, qui avait, comment dire,
c'est littéralement, il sort de l'écran, il vient te voir, il te prend par le col et il te met la main sur l'écran.
Ça. Et tout le film est fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le mot, je pense en fait qu'il y a une interprétation d'Oliver Stone du scénario de Tarantino. C'est-à-dire, ce serait malhonnête de considérer qu'il est juste concepteur de l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, et que c'est que ce qui reste. C'est vraiment, il y a quand même des trucs du scénar de Tarantino. Sauf, encore une fois, ce moment dont je parlais, où, en gros, tout le discours, et c'est quasiment pour moi l'ajout le plus significatif, en fait, du film, tout le discours que tient, à la télé, devant la caméra de Wayne Gale, en fait, le personnage de Mickey Knox, sur le fait de tuer, sur le fait d'être supérieur à cause de ça, etc., etc., c'est un discours thématique qui semble cohérent, qui semble, en fait, être en conjonction avec ce que le film raconte, en fait. Et du coup, c'est là où je pense, en fait, que Oliver Stone voulait aussi, entre guillemets, surélever le matériau, quoi. C'est-à-dire que, en gros, dire, on va poser la question de qu'est-ce que ça veut dire de tuer et pourquoi, en fait, on fait en sorte que les tueurs en série
deviennent des stars.
Voilà, c'est ça, dans les médias, quoi. Tu vois.
Et pourquoi on en fait des films et pourquoi, en tant que spectateur, on jouit de regarder ces films, etc. Ouais. Mais le truc, encore une fois, c'est que Tarantino, il était donc dans une démarche, comme on l'a dit, cinéphile. Et le cinéphile, il est aussi motivé par une recherche du beau, de l'esthétique. Et le truc aussi, il faut le rappeler, hein, c'est la raison pour laquelle on n'a pas aimé Tuer Né à l'époque de sa sortie, c'est que c'est pas beau, c'est moche. Mais c'est une mocheté assumée. Lorsque justement il refait I Love Lucy, enfin cet épisode sitcom, tout dans l'image est là pour te dégoûter. Je veux dire, la moquette de l'appartement, c'est la pire couleur qu'on pouvait trouver. C'est littéralement couleur caca. Rodney Dangerfield, il est en Marcel puant.
C'est Rodney Dangerfield quand même.
Et tout est fait pour ouais, c'est ça.
D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Rodney Dangerfield, en fait, ne comprenait pas pourquoi on lui demande de jouer ça, en fait, si tu veux. Il comprenait pas le trip. Il avait lu le scénar, mais il comprenait pas la logique, quoi. Par contre, il est, moi, je trouve incroyable dans le film.
Terrifiant,
en fait.
Ouais.
Bah oui, parce que, en fait, René Dangerfield, si tu connais, c'est à fond la fac, c'est des trucs comme oui, ça, c'est quand même des comédies des années 80 bien.
Sa célébrité aux États-Unis, elle est due au fait que c'était le roi du roasting, ça, cette tradition qu'on a d'ailleurs pas en France, hein, le roast, c'est vanner quelqu'un, jusqu'à la mort, quoi. C'est-à-dire, enfin, bon.
Et lui le premier.
Parce
que sa phrase clé, c'était I get no respect.
Ouais. Et donc, on revient sur la question de la violence. Même l'humour que les Américains affectionnent est un humour agressif et violent. Et donc, du coup, tout dans ce film déborde de tous les côtés. Et je pense que, pour le coup, je pense pas que ça a été conceptualisé au sens... Même si Stone est de fait un intellectuel, je pense qu'il a même pas vraiment posé le truc. Il le dit lui-même que le projet a viré de bord. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où ils étaient dessus, quand ils tournaient les séquences avec Richardson, ils étaient même pas sûrs de ce qu'ils allaient en faire en définitive, et que le film s'est vraiment fait au montage.
Si ce n'est qu'il y a des choix. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a clairement des choix de montage. Il y a clairement des choix de format. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est-à-dire
et ça, parce qu'il avait eu le JFK avant.
Voilà. Aujourd'hui, tous les formats sont uniformisés. En gros, que tu ailles en salle ou que tu regardes chez toi, que tu regardes la télé, c'est littéralement les mêmes formats, en fait, si tu veux, avec les mêmes résolutions. À l'époque, il y avait évidemment une distinction entre la vidéo, une distinction entre le 16 mm, une distinction avec le 35, le 70, enfin, voilà, quoi. Et le truc, c'est que ce qui fait que, nous, quand on allait voir déjà tourner en salle et que t'avais un format qui était dégueulasse comme celui du sitcom, ou même, en fait, en gros, si tu veux, les formats pub, télé ou les trucs comme ça, bah, sur grand écran, on se disait, bah, c'est dégueulasse. Mmh. Mais je pense que c'était volontaire. Je pense que la volonté, c'était de te dire, ça, c'est moche. Ça, c'est bien. Mmh. Tu vois, il y a un côté comme ça. En fait, le cinéma, la fiction, on peut. La télé, c'est de la merde, tu vois. Et encore une fois, je schématiserai dans la logique des choses, mais en même temps, le film, il va pas beaucoup plus loin que ça, en fait, si tu veux, quand tu réfléchis, quoi. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tout le monde lui est tombé sur le paletot, hein. C'est que.
Parce que, effectivement,
j'ai. Il fallait que quelqu'un qui lâche une grenade là-dedans, hein. Il n'y avait pas de problème avec ça.
JFK avait été bien accepté. Alors, bon, il y avait une polémique sur la thématique défendue par le film, mais elle était politique. Elle n'était pas esthétique. Sur le plan esthétique, le film a été très bien accueilli.
Je me rappelle qu'on lui avait surtout reproché le personnage de Mr. X, en fait.
Oui, encore une fois.
Qui arrive et qui débarque, en fait, oui, et qui balance 15
minutes. Mais ça,
infos.
C'était ouais. sur le côté plus politique que le film que se faisait attaquer. Pas sur son look. Le film a été accueilli comme un beau produit classique américain, alors qu'en fait il était effectivement très expérimental, puisque justement il y avait ce mélange des formats du 16 mm, du 8 mm, des images télé, hein. On avait aussi de la vidéo noir et blanc dans JFK.
Très cohérent, parce que ça vient du film de Zapruder, voilà. Ça vient de tous ces trucs-là.
Et du côté aussi fragmentaire de l'enquête, c'est-à-dire que justement, comme on a des personnages qui sont en train d'essayer de rassembler les éléments, le fait d'avoir un rassemblement d'éléments épars à l'image était thématiquement cohérent. Alors que dans Tuerney, on est là vraiment dans, encore une fois, j'aime pas ce mot, on l'utilise tout le temps, postmoderne, c'est-à-dire vous êtes des spectateurs, vous savez que vous êtes des spectateurs en train de regarder un film au cinéma, et en même temps vous êtes des gens qui regardez la télé, donc vous savez que cette imagerie là vient de la télé, bon, bref, et du coup en vous mettant un gros baquet de merde sur la gueule, je vais vous inviter à vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes venu en salle, pourquoi vous avez payé pour voir un film sur une violence télévisuelle, en fait, quoi. Donc il y a toute une démarche. Alors, j'avais rencontré Oliver Stone il y a une dizaine d'années, et on avait un petit peu parlé de ça. Et c'est vrai je me suis senti con quand il m'a dit, vous savez, je ne fais que de l'agitprop. Parce que j'avais oublié presque que Oliver Stone était un pur produit des années 60.
Il faut expliquer ce que c'est.
Alors, l'agitprop, c'est en fait littéralement agitation propagande. Ouais. Donc c'était en gros dans les 60s et dans le surgissement de rébellion étudiante des années 60, l'idée c'était de faire une forme de contre-propagande qui puisse justement contrer la propagande du gouvernement de l'époque qui était donc qu'on assimilait justement encore une fois à ce cinéma classique, à cette télévision classique, et du coup l'agitprop consistait à détourner toutes ces figures pour en faire des objets qui soient justement pas propres, des objets sales, des trucs qui te sautent à la gueule. Il n'est pas important dans la gîte propre d'être juste politiquement ou d'être beau esthétiquement. Il faut juste que ça te crache au visage, en fait. Hein. Mais de la gîte propre sont sortis... je sais pas moi, le comic book moderne à la Robert Crumb, on va dire, ou tout ce qui est, tu vois, et Crumb, ses caricatures, elles sont dégueulasses, elles sont, enfin, et en même temps, c'est un mec qui savait super bien dessiner, mais qui faisait exprès de faire sale, comme en France, on a eu Razer, ouais. Voilà, c'est un dessin qui te sautait à la gueule, quoi. Et c'est vrai que, en fait, Tueur Né, c'est un pur produit d'agitprop qui ne se préoccupe pas d'être beau, qui se préoccupe pas d'être juste, éthiquement, enfin, il est pas là pour te donner des leçons de morale et de philosophie, même si son personnage principal te fait ce discours en plein milieu, il est là pour te cracher à la gueule, en fait. Et du coup,
c'est
te réveiller,
c'est
en fait.
C'est du contre-courant ouais. culturel, en fait.
C'est de la contre-culture. Voilà. Sauf que c'est de la contre-culture produite par une major hollywoodienne à plusieurs millions de dollars. Donc c'est ça. Bah,
parce qu'en fait, à cette époque-là, bon, c'était le cas. Déjà, JFK, on va dire qu'il avait l'avantage d'avoir. En gros, Kevin Costner, c'est-à-dire qu'en fait, tu te disais le film est très bien reçu, il est aussi très bien reçu parce qu'il y a Kevin Costner et qu'à cette époque-là, Kevin Costner, c'était
oui. Danse avec les loups. Et parce qu'on a accepté l'idée de détourner les codes du cinéma classique. Encore une fois, on parle de détournement. Tueur Né ne détourne pas. Tueur Né utilise l'imagerie télévisuelle exactement comme elle est utilisée à la télé de l'époque.
Alors, oui, mais en même temps.
Dans un excès.
Non, pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'allais dire, si tu veux, c'est que quand tu regardes le film. Il y a de tout hein, dans Tueur Né. Encore une fois, donc il va utiliser le 16 mm qui va renvoyer au mariage de Mickey et Mallory. C'est quand ils sont sur le comment dire sur le pont et qu'ils se marient. En fait, t'as des plans de 16 mm qui reprennent, mais qui sont des plans de 16 mm qui font film de vacances en fait ou de comment dire de souvenirs en fait de familial quoi. Tu vois ce qui pouvait aujourd'hui. Ça serait en gros, ça serait l'iPhone, quoi. Ouais, ça serait ton téléphone, tu vois. Ça serait ça le format, on va dire. Là, c'est ça la logique, tu vois. Alors évidemment, t'as des plans télé parce que en fait, en gros, quand tu vois l'émission, enfin, du 480 dégueulasse, tu vois, en vidéo, tu vois dans les émissions de Wayne Gale et tout ça. Donc ça, tu le vois en flash. T'as la pub. Parce que ça aussi, il utilise la pub. Et d'ailleurs, ça avait été un truc assez marrant parce que, il fait rien que ce que Verhoeven n'avait pas fait, sauf que Verhoeven, il reprenait pas des vraies pubs, il les parodiait, quoi.
Mais il reprend le Coca.
Et sauf que, en fait, Coca, ils avaient dit oui, puis ils ont vu le film, ils ont fait merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pareil, qu'ils étaient pas contents du tout. Mais j'ai envie de dire, bien fait pour leur gueule, quoi. Mm. Ils avaient qu'à regarder un peu, et puis ils savaient qu'il fassait Oliver Stone, quoi. Tu vois? Les gars, on fait un film sur des tueurs en série, c'est réalisé par Oliver Stone. Tu vois? Et en fait.
Oui, c'est dans l'hypocrisie de l'époque. Encore une fois, on était dans la mouvance, Schwarzenegger, casse des bras et éclate des crâne,
oui,
quoi.
Mais déjà c'est Oliver Stone encore une fois. Enfin, on sait très bien qu'il n'allait pas faire un Schwarzenegger. Enfin, on sait très bien que c'est pas Chuck Russell un autre réal qui a fait des films Schwarzenegger, enfin John Flynn ou je sais pas quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est que non, c'était même pas John Flynn en fait, c'est John Irvine, pardon. Autant pour moi, John Flynn, c'est un peu plus respectueux quand même. Mais voilà. Et l'autre truc, c'est que en fait, c'est surtout, je pense, c'est les mecs ont payé. Hmm. Donc ils ont payé pour avoir cette pub. Ok, a fait, allez-y, hein, tu vois, foutez où vous voulez. Puis là, quand c'est arrivé, ils se sont dit, ah merde, on va se prendre une shitstorm sur la gueule parce qu'on n'a pas vérifié, on a juste pris l'argent, on a fermé nos gueules, quoi, tu vois. Donc, dans ce mouvement-là, effectivement, c'est bien fait pour eux. Mais le truc, c'est que donc t'as ça, t'as même dans le director's cut, et je suis sûr qu'il s'est dit, ça passe, tant pis, parce qu'il a restauré le film. En fait, alors, c'est un film qui a été énormément cuté par la MPAA, ça, c'est aussi un truc qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'en gros, il nous arrivait aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il était, certes, il y a une espèce de chaos et d'agitation en fait dans le film qui est très, incontrôlable, mais c'est aussi un film qui moi aussi m'avait un petit peu déçu parce que justement je trouvais pas aussi violent que ce que son scénario suggérait, c'est-à-dire et pour cause en fait. Stone a dû cutter énormément de la violence en fait du film, ce qui lui a bien fait chier. Et je crois qu'il y a 150 coupes au bas mot. Comme il travaillait très vite à cette époque-là et comme il travaillait officieusement, le terme c'est qu'il avait un spécialiste des substances illicites ou je sais pas quoi sur le plateau, quoi. Tu vois, c'est un des trucs qui a été raconté, genre c'est Oliver Stone, tu vois. Donc apparemment il travaillait, on va dire, sous influence, quoi. Et
Bah, non seulement, oui, bah, ça peut se comprendre, et puis c'est même au cœur du film, puisque le début de prise de conscience des personnages se fait autour de cette scène avec l'Indien.
Ouais, sur le peyote et tout.
Sous peyote, et donc bah, du coup, c'est à la suite de cette expérience-là, où ils finissent d'ailleurs par le tuer, le pauvre gars, c'est à la suite de cette expérience-là où tu sens qu'ils peuvent plus tuer comme avant, en fait.
Bon, ils se gênent pas.
Ils se gênent pas, mais par la...
Par
rapport au couple qu'on lui a imposé, lui, ce qu'il faisait chier, c'était dans la première partie du film, c'est-à-dire que lui-même a choisi de couper de la violence qui arrivait après cette séquence-là. Notamment, il y avait cette séquence où il tronçonnait les jambes des barbarians, là.
Les frères Paul.
Les frères Paul, voilà.
Toi, tu dis les barbarians.
Bah oui, parce que
Barbarians.
C'est sorti en France, dans un pays français.
Connard le barbarian.
Et moi et mes copains, on avait lu sur l'affiche les barbarians. Ça s'appelait les barbarians.
Les barbarians.
Donc j'ai jamais.
Les chouans, les barbarians.
J'ai jamais appelé ça barbarians.
Ok, d'accord. Tu nous as fait une Arnaud Bordas là.
Mais ça, voilà, cette couple-là, elle est de son fait parce qu'il voulait pas justement qu'après
la scène, elle est pas dans le director's cut. D'ailleurs non plus. Mais moi, en fait, ce que j'allais dire, c'est que dans le director's cut, ce qui est ajouté finalement, c'est que la MPAA par exemple a demandé à couper la mort, bon spoil, hein, la mort en fait de Tommy Lee Jones, qui est le gardien de prison, qui se fait couper la tête par, il se met sur une pique, tu vois, ce qui est quand même une image révolutionnaire extrêmement connue, quoi. Mmh. Et en fait, quand il l'a rajouté dans son director's cut, c'est un plan. Mmh. Mais ce que j'allais dire sur le director's cut aussi, c'est que comme tu sens qu'il a pris des sources qui étaient aussi des sources vidéo, et du coup, parce que probablement ça avait dû être se perdre. Surtout avec la pellicule, et même en fait, si le director's cut date de 4-5 ans seulement après, après la sortie du film, je crois que nous on l'avait découvert en vidéo, en DVD en 98-99, mmh, quelque chose comme ça, quoi. Je crois que tu m'avais même passé ton DVD à l'époque pour que je le vois comme ça.
Je suis généreux.
Ouais, ouais. Bah, là maintenant, vous pouvez le voir, il existe en Blu-ray, et justement en Blu-ray ça se voit parce que c'est une plus grosse résolution. Ça se voit que c'est des plans en vidéo qu'il a récupéré d'un truc vidéo d'une sortie vidéo pour pouvoir le mettre dans son film, mais à la limite.
Ça passe
parce que ça colle, enfin, déjà c'est trois plans, mm-hmm, et ça colle, on va dire, avec l'énergie du film, même si c'est beaucoup moins cohérent que le reste, puisque pour le coup c'est vraiment normalement c'est censé être une scène tournée en 35, quoi. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'image, en fait? Il y a des flashs en fait très rapides, stroboscopiques. Il y a du cartoon, c'est vrai aussi. Enfin voilà, il a rajouté un petit peu de cartoon, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas il a réintégré ça. Et il a rajouté beaucoup de flash aussi d'images violentes, en fait. C'est-à-dire que en gros, il y a toute l'idée que le personnage de Mickey doit combattre le démon. Et en fait, l'idée du démon est représentée par le personnage de Wayne Gale, donc le présentateur télé, et lui-même réapparaît dans plein de flash images, en fait, si tu veux, derrière au moment de sa mort, tu vois, quand il se fait, c'est la dernière victime de Mickey et Mallory, quoi. Et Mickey et Mallory laisse toujours une trace, en fait, il laisse toujours un témoin, et là en l'occurrence le seul témoin c'est la caméra de Wayne Gale, quoi, ce qui en dit long sur ce que le film raconte aussi, quoi,
du film, ouais.
Ouais, voilà. Et le truc c'est que en fait dans la mort de ce personnage là qui est un peu plus longue aussi dans le director's cut, il y a fondamentalement beaucoup plus d'images en fait où il est en démon, il apparaît en démon, tu sais, il est maquillé grossièrement comme un vieux démon des années 10 ou des trucs comme ça, quoi, tu vois, des imageries des années 30 et tout ça. Et voilà, c'est assez graphique, c'est assez, encore une fois, très martelé, hein. Je veux dire, le mot démon est utilisé, il est littéralement visualisé, il est littéralement interprété par le personnage qui représente la télé dans le film. Bref, c'est...
Voilà. Une raison pour laquelle Oliver Stone, d'ailleurs tout comme nous, a toujours détesté une bonne partie du cinéma européen, c'est parce que, justement, c'est un cinéma cérébral qui ne se préoccupe pas ou peu d'essayer de grandir les choses, de les forcer. Il y a une raison pour laquelle Oliver Stone a toujours utilisé la mythologie dans ses films, parce que la mythologie c'est mener un concept jusqu'au bout, en fait. Tu me parles de ta petite vie, de ton petit nombril, mais moi je veux que ta voisine c'est Pénélope, ton voisin c'est Ulysse. Il faut vraiment monter à ce niveau-là pour m'intéresser. Quand je l'ai interviewé, il m'a sorti un truc qui m'a complètement déstabilisé. À un moment donné, il m'a dit, comment il a formulé ça, il a dit donne-moi quelque chose, Rafik, donne-moi à manger, j'en ai besoin. Mais tu sais, c'était en mode il aurait pu me dire mets-moi une gifle, tu vois, enfin il avait besoin dans mes questions que je sois agressif, en fait. Parce qu'à un moment donné, j'étais trop dans son camp, tu vois. J'étais
mais
trop...
il a la conscience de l'image, non, peut-être aussi.
Non, non, je pense que c'est un mec qui a besoin d'être stimulé, justement, de se retrouver en difficulté, et que mes questions, à ce moment-là, elles allaient trop dans son sens, en fait. Et donc, il m'a fait un signe en mode, vas-y, attaque, quoi, mort.
T'as pas autre chose à me...
Ouais, ouais, donne-moi du biscuit, mais le biscuit, c'est... Bon, bref. Je sais même pas où j'allais en racontant ça.
Non, mais je parlais du fait que
de grossir le trait, d'aller jusqu'au bout. Donc du coup, de cette imagerie de démoniaque, elle peut paraître pas subtile, mais en même temps, bah c'est, tu sais de quoi il est en train de te parler. Il est en train de te dire que ces personnages là, qui sont d'ailleurs à la fois des prédateurs et des victimes, hein, y a pas beaucoup de films qui te montrent des gens qui sont à la fois d'horribles tueurs, parce que je sais même pas combien de gens ils massacrent dans,
je crois que dans la prison, il y en a une cinquantaine,
voilà, et en même temps à aucun moment tu doutes qu'ils sont aussi les victimes de leur enfance, du milieu dans lequel ils ont grandi, de la société qui les a élevés.
Le montre. Enfin, encore une fois, tu sais, voilà, le film est, il est stylé, quoi. Mais non, après, moi, ce que j'allais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il y a deux choses. Parce qu'on on explique quand même aussi beaucoup ce qu'est le film. On l'interprète assez, de manière assez, comment dire, tu vois, avec un certain recul. Mais ce qu'on peut pas enlever au film, en fait, pour moi, c'est que on avait besoin à cette époque-là qu'il y ait une grenade qui soit dégoupillée, en fait, dans ce système-là, et de le montrer. Donc, c'était bien qu'un mec comme Oliver Stone, qui est quand même oscarisé, qui est quand même, comment dire, installé, en fait, le face. C'est-à-dire, il est les couilles de faire ça, même si c'est brouillon, à mon sens, par certains moments. Et il y a cet autre truc, encore une fois, c'est que, aussi chaotique que le film puisse être, en fait, il y a une ampleur dedans que je trouve, en fait, qu'on revoit plus tellement, en fait, dans ce genre de projet, en fait. Et mine de rien, en fait, toute la comment dire, toute l'évasion de prison... Mmh. Alors, elle démarre sur un truc qui, pour moi, fonctionne pas vraiment, mais en fait, passer le discours, en fait, justement, sur qui est, je trouve, assez fort sur la thématique, sur l'idée de tuer et sur l'idée d'être transcendé par ça. En fait, t'as une scène qui fait basculer le truc parce qu'il y a une émeute qui démarre, tu ne sais trop, à cause de ce passage. Mais même là, déjà, t'es en train de dire pourquoi est-ce que vous diffusez cette émission dans une prison où il y a que des tueurs, complètement dingues et tout, qui sont condamnés à vie, quoi, tu vois. Ça, c'est le premier point où tu te dis, scénaristiquement parlant, c'est un peu léger, quoi. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, lui, il s'en sort en faisant une blague à la con, pour le coup, que, en fait, dans n'importe quel Schwarzenegger, ils auraient pu caler, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive, il fait une blague, et en fait, il détourne tout le monde, et il prend un fusil, il vole un fusil, et puis il bute tout le monde, quoi.
C'est un peu facile, scénaristiquement. Après, je pense qu'arrivé à ce moment du film, on est assommé en tant que
oui, mais moi je me rappelle m'être dit, j'ai du mal à croire que ça passe pour Oliver Stone. Mais ça, pour le coup, la blague, en fait, c'est pas dans
on peut aussi parler des conditions de tournage de cette séquence, parce que c'est quand même assez particulier, puisqu'ils ont tourné quand même avec des vrais détenus. Dont certains étaient là pour meurtre, hein, quand même, en leur foutant des flingues en plastique dans les mains, et les cascadeurs jouaient les gardiens de prison, parce qu'on savait que les détenus allaient se laisser un petit peu emporter par leur rôle et allaient défoncer la gueule des gars. Et je veux dire, ça a été un bordel, hein, ce tournage. Woody Harrelson, il en parle comme une expérience à double visage, parce qu'à la fois il a complètement kiffé ce bordel, parce que ça devait être un sacré bordel, et en même temps il flippait pour sa vie, quoi, parce qu'il était quand même entouré de mecs réellement réellement violents. Je crois que Robert Richardson s'est blessé à la main. Un autre, l'assistant chef op, il a failli perdre un œil. Donc ça a été un gros morceau. Donc il en reste à l'écran, il en reste, je dirais, l'énergie.
Et un truc aussi totalement fou, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, t'as quand même des perspectives en parce qu'il y a beaucoup de grands angles dans le film et tout.
Un peu trop, oui. Mais bon, comme la télévision.
Pour moi, j'ai moins de problèmes avec un grand angle sur un couloir, si tu veux, par exemple, parce que justement, ça donne une énorme perspective dans une scène d'action, en fait, où d'un seul coup,
parce que c'est un peu moche, ouais, mais je veux dire, le cinéma de Hong Kong le faisait aussi à l'époque, et je regardais quand même les films de Hong Kong. Mais...
Oui, t'as aussi parce que encore une fois, un scénar de Tarantino Bus, t'as quand même un Mexican stand-off, tu vois. Je veux dire, qu'on n'a pas utilisé dans ton émission déjà vu, quoi. Je sais pas comment on a fait, surtout qu'il le dit ouvertement. Ah, tiens, on est dans un Mexican stand-off et tout, quoi. Mais ceci dit, il se termine différemment. En fait, c'est assez marrant parce que c'est un Mexican stand-off qui fonctionne, parce que t'as le personnage de Mickey qui a un fusil, t'as le personnage de Skagnetti là qui est Tom Sizemore donc qui a un flingue et en fait t'as les autres qui le filment avec la caméra tu vois et la caméra c'est le troisième entre guillemets flingue du truc quoi. Et
très subtil aussi, non?
Non, mais c'est, bah, alors, pour le coup, c'est pas vraiment appuyé. Mmh. C'est ça qui est marrant, en fait. Et puis surtout, c'est plus vraiment en fait, là où ça devient stand-off, si tu veux, c'est que, en fait, il ne tire pas. Mais c'est Mallory qui attrape Skagnetti, qui lui plante la gorge, en fait. Et du coup, les mecs le filment. Donc bon, bref. C'est tant que ça passe à la télé, tout va bien, quoi. Tu vois, c'était ça le.
Bah, c'est pas tant que ça passe à la télé, c'est que c'est aussi, ça suggère qu'il est tué une deuxième fois.
Par la télé, c'est ça, ouais, c'est ce que je voulais dire. Et le truc, en fait, du coup, c'est que c'est là où, en fait, voilà, on est dans un, et je pense que c'est clairement volontaire de la part d'Oliver Stone, mais pour le coup, c'est moins appuyé, je trouve.
Volontaire, mais pas précalculé. Encore une fois, moi, je le crois quand il dit que le projet s'est barré en couille, c'est-à-dire enfin qu'ils ont
commencé. Je pense que lui-même s'est barré en couille.
Hein. Voilà, qu'ils ont commencé avec un vague plan de travail et que dès le tournage, ils ont vu qu'ils étaient partis complètement ailleurs, quoi.
Mais de toute façon,
il y a eu 11 mois de post-prod et de montage sur ce film, c'est quand même carrément excessif à l'époque, en tout cas pour une prod hollywoodienne. Et alors ça fait rire aujourd'hui.
Surtout chez Warner, parce que Warner avait le grand truc, c'était de sortir les films. En wet print, hein, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est quasiment un truc du studio, c'est qu'en fait, ils lançaient leur prod super tard, ils avaient une date calée et en fait, ils sortaient le film dans la foulée. Quoi. Ouais, et ouais. En l'occurrence, un film pouvait être tourné en mai pour sortir en septembre et voilà. Et là, celui-là, effectivement, chez Warner qui plus est. Non, ils ont laissé, mais bon, en même temps, enfin, je pense qu'il y avait rien qui sortait de cohérent en 4 mois, hein, ouais. Si tu veux, de ce film.
Et
s'il fallait passer du temps dessus, quoi.
Et puis un record à l'époque, alors explosé dans les années suivantes, évidemment. Mais enfin, on était à 3000 plans, là où la moyenne de l'époque c'était 800 plans par film.
Du pré Michael Bay.
Et donc c'est clairement, oui, mais c'est clairement du pré Michael Bay. Encore une fois, c'est pas un film joli à voir, mais c'est quand même la première véritable tentative de synthétiser toute cette nouvelle culture des images.
Est-ce que c'était monté en à vide aussi, ça?
Je sais pas.
Parce que c'était l'émergence à l'époque, hein, de la station montage à vide
Je sais pas. C'était monté en acide, mais ouais. En avis, je sais pas.
Non, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que c'est Michael Bay qui a créé plus ou moins ce système, mais ce langage, tu vois, vis-à-vis des plans cutés. Mais le truc, c'est qu'Oliver Stone ne l'a pas fait que avec Tourné. Hein.
Ouais.
Bon, il l'a fait avec.
Non, mais déjà JFK, il y a des séquences.
Et puis des années plus tard, L'Enfer du Dimanche. L'Enfer du Dimanche, c'est le nom de l'image tombée.
On était monté à 11 000 plans, on est parti
tombé, dans le 11 000 plans, t'es sûr? Ouais.
Non,
ça me paraît pas beaucoup.
Non, ça doit être 10 000 parce que McTiernan. Voulait monter à 11 000 sur Rollerball.
Hein. Ouais. Bon, ça n'a pas été le cas sur Rollerball, ouais. Mais puisque c'est plus son bon.
Sauf que L'Enfer du Dimanche, c'est toute l'expérience cumulée à la fois sur JFK et sur Tuarmé, mais redevenue élégante. Il y a un retour à une forme
complètement
cinéphile.
Rendre cinématographique un sport qu'on voit tous à la télé, en fait, ouais. En tout cas le spectateur voit la télé.
J'aimerais bien caser quand même un truc, parce qu'il y a eu autour de Tuarmé un autre projet qui a failli naître à cette époque-là et qu'on n'aura jamais vu, mais j'aurais moi bien aimé le voir, c'est qu'avec Hampshire et Don Murphy.
Don Murphy,
ils ont aussi repris le projet La Planète des Singes. Et c'était en pleine période où donc Stone était complètement Stone sur ses bancs de montage. Et en fait, ce projet de La Planète des Singes, qui a rien à voir avec le roman de Pierre Boulle et donc rien à voir avec le film de 68, qui était une histoire d'ADN de singes du passé qui en fait était retrouvé aujourd'hui. Bon, bref, c'était un pur délire d'ado des 60s qui a pris trop d'acide et qui est parti en vrille, quoi. Et je pense que visuellement, surtout quand tu vois les quelques dessins de pré-prod qui avaient été faits à l'époque, on était dans la même dynamique que tu en es. Donc on est passé à côté d'un planète des singes particulièrement barré,
qui se serait complètement planté en salle.
Mais j'aurais quand même aimé. Bien
non, mais
aimé
c'est
le
clair,
voir.
Ben, bien sûr. Mais alors, comment dire, justement, tu parles de Don Murphy. Et il y a un truc qui était assez marrant, c'est
qu'il nous a insulté sur Facebook.
Ah oui, il nous a insulté.
Oui,
sur
il nous a menacé, insulté à l'époque où on soutenait McTiernan. Ouais.
C'est vrai.
Ouais.
D'accord. C'était lui?
C'était lui, ouais.
D'accord. Bon. Mais lui, c'est un personnage sympathique, apparemment, puisque, en fait, en gros, il s'est pris une prune dans la tronche par Tarantino.
Ouais.
Alors, en gros, C'était sa compagne, la productrice, Jane
Hampshire.
Ah, Jane Hampshire, merci. En fait, c'était sa compagne, et ils ont divorcé depuis, et dans les années 90, elle a écrit un bouquin sur la fabrication de Turner. Parce que voilà, encore une fois, on le répète, Turner, là, on a beaucoup parlé du film, mais c'est un film qui est sorti avec une énorme controverse. On parlait de 150 plans, je crois, c'est ça ce que j'ai dit, coupés en fait de violence, mais ça restait quand même un truc qui a été extrêmement mal vu. Nous, en France, on a eu un petit, fait divers autour de ça, en fait, avec un couple de jeunes ados qui étaient, j'ai plus leur nom, mais...
Oui, mais qui effectivement se sont lancés dans une série de meurtres en prétendant qu'ils regardaient le film une fois par jour. Un truc
voilà, et ils avaient, c'était à l'époque de la sortie du film, ils avaient les tickets UGC, je crois, dans la poche, en fait, de Turner, quoi. Donc évidemment, nos médias sont montés, en flèche, quoi, sur le film aussi, quoi. Ça, c'est le point.
Mais par contre, on n'a pas eu le mot fasciste. Bizarrement. Parce qu'Oliver Stone s'est fait traiter de fasciste par la presse française pendant toutes les années 80, quand il a fait Midnight Express, quand il a fait Scarface, quand il a fait La Nuit du Dragon, c'était vraiment devenu... Et je me souviens de Stone, ça devait être début des années 90, en interview télé, en train de dire « Mais moi, j'étais à Paris pour la manifestation de mai 68, pourquoi on me traite de fasciste ?» Bon, il comprenait pas, quoi. Mais bizarrement, sur Turner, alors que le film tend les bras pour se faire attaquer de tout le monde, quoi.
Bon, en tout cas, il se fait attaquer sur tout et n'importe quoi. Hein, ouais. Ceci étant dit, le film, effectivement, sur sa forme, sur le fond, sur tout ce que tu veux. Donc ça, faut le préciser. Et donc, comme ça a été une grosse controverse, la productrice s'est assignée un contrat pour raconter l'histoire de la fabrication du film, qui est sorti 2-3 ans après la sortie du film, quoi, où elle faisait passer en gros Tarantino pour un benêt, voilà. Et une des phrases de Don Murphy dans le livre, c'était de toute façon c'est un réalisateur attardé qui dépassera pas en fait Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Voilà, c'était le truc. Et ils se sont croisés dans un restaurant à Beverly Hills, je sais pas, en 97 ou un truc comme ça. Ça a été une histoire, puisque en fait Tarantino a été traîné en justice, etc., etc., quoi. Et Tarantino l'a attrapé, lui a mis une patate dans la gueule, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est surtout le mec qui a développé pendant des années Transformers avant que ça tombe dans les pattes de Michael Bay, quoi. Et pour l'anecdote, pour terminer peut-être sur Tarantino, en tout cas, le truc, c'est que lui donc déteste le film, hein, mais film qu'il admet ne pas avoir vu en entier d'ailleurs, tu vois, et jusqu'au jour en gros où apparemment il a croisé dans un ascenseur, c'est-à-dire qu'il il le connaissait pas, il était fan du gars, les portes d'ascenseur s'ouvrent et en fait il y a Johnny Cash et sa femme en fait qui sont dans l'ascenseur, qui ils font descendre ensemble, et apparemment Tarantino raconte la courte discussion qu'ils ont eue dans l'ascenseur. Johnny Cash se tourne vers lui, il dit mais vous êtes Quentin Tarantino, et Tarantino lui dit oui, c'est moi et tout. Alors le mec lui dit j'aime beaucoup ce que vous faites, tu vois, Johnny Cash lui dit ça, ma femme et moi sont vraiment très fans de votre cinéma, et lui il fait moi je suis très fan de vos chansons, monsieur Johnny Cash et tout, quoi, et le et le mec lui dit surtout Turner, on adore Turner. Tu vois, et là d'un seul coup lui il s'est dit bon, et apparemment ça lui a fait revoir le film à la hausse, ou en tout cas bon, c'est pas, il raconte cette anecdote, je pense, pour faire du name dropping, on va dire, quoi, tu vois.
Bah, moi, c'est marrant de savoir que Johnny Cash, le mec qui a fait littéralement la moitié de ses chansons
en tôle,
on va dire, ou autour des tôlards, kiffe un film comme Turner, quoi.
Comme Turner, ouais. Mais c'est pas incohérent, hein.
Bah, carrément pas, ouais.
Donc voilà, quoi. Et puis c'est pas incohérent de penser que c'est un film de Tarantino aussi, hein, d'une certaine manière. En tout cas, il a été aussi vendu sur cet aspect-là, quoi. Ouais. À cette époque-là, quoi. Donc, est-ce qu'on a dit ce qu'on avait à dire? On a passé pas mal de temps, je crois, déjà, hein, sur le film. Il y a Alain Mercier qui fait oui de la tête comme ça. Je tourne même pas le film, je le vois.
C'est vrai que c'était pas très structuré. C'est vrai que c'était un peu chaotique, mais.
Bon, je pense que les gens connaissent le film.
Et le film n'est pas facile à aborder autrement que de façon chaotique.
Non, et l'autre truc, à la limite, ce que j'avais envie de dire, c'est que, en fait, j'avais dit un petit peu en début de podcast que c'est un film non pas oublié, mais que dont on parle plus vraiment, et je pense pour une raison assez simple, hein, finalement, c'est que il est très ancré dans l'air du temps. Et quand je dis l'air du temps, c'est pas forcément uniquement dans sa forme, hein, c'est vraiment dans ce qu'il raconte, c'est-à-dire les thématiques qu'il aborde et les personnes qu'il attaque, oui, directement. Ça se fait plus, en fait, ça se fait différemment, en tout cas ça a pris d'autres formats.
Pour laquelle
en fait
on en parle plus trop, c'est parce que c'est un miroir, c'est le miroir d'une forme de liberté créative qu'on ne s'autorise plus, en fait. Moi, j'attends de voir, encore une fois, une production américaine, même pas forcément un gros budget, s'attaquer aussi frontalement
aux réseaux sociaux, je veux dire.
À la propagande actuelle, comment ?
Aux réseaux sociaux.
par exemple, mais à toute l'imagerie de la propagande dans laquelle on baigne actuellement. Le CNN de l'époque, c'était de la propagande. Mmh. Et faire de la gitprop, c'était, encore une fois, cracher à la gueule de cette propagande en utilisant ses propres armes. Je vois pas aujourd'hui quelqu'un faire ça avec que ce soit les réseaux sociaux ou Netflix ou machin ou ce genre de trucs-là. Donc merci Oliver quand même d'avoir été malin.
Même lui, je pense qu'il est plus vraiment capable de faire ça. Hein. C'est-à-dire que même les moments où il a, parce que ça reste quand même un cinéaste.
Ça reste un troll jusqu'au bout. Enfin,
ouais.
Je te rappelle qu'il a fait.
Poutine, tu veux dire.
Il a fait Vladimir Poutine.
Ouais. Fidel Castro.
En mode je vous emmerde, il se pose là quoi. Donc.
Ouais, Fidel Castro, c'est après tout quoi. Tu vois ce que je veux dire. Poutine, c'est juste avant. Donc c'est ça qui est rigolo quoi. Mais à la limite, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est surtout moi je pensais quand il fait par exemple Snowden ou d'un seul coup, quand tu regardes le film, la problématique du film, c'est que pour moi, il se fait littéralement dépasser par le documentaire en question, c'est-à-dire qu'il n'apporte rien de vraiment pertinent par rapport à ce que le documentaire dit.
Par le truc, moi, j'ai presque l'impression qu'il fait Snowden pour se faire pardonner tous ses excès. En fait. Mais bon, bref.
Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que si tu pars d'un personnage de lanceur d'alerte, tu pars d'un quelqu'un qui, en fait, si tu veux, a cette image de jeter un pavé dans la mare, tu vois. Et en fait, nous, je veux dire, les spectateurs. On a appris tout ça à travers, bon, au-delà de, comment dire, ce que je veux dire, au-delà des news à la télé ou sur Internet, on l'a appris, en fait, à travers un documentaire, si tu veux. Et ça, à travers une forme spécifique et tout, qui de narration. Et en fait, celle de Snowden, qui est un film intéressant, hein, par ailleurs, sur plein d'aspects, ne le joue pas, en fait. Donc, il n'est pas dans la même catégorie. Il rajoute rien de plus, c'est ça que je veux dire, quoi.
Je peux citer W aussi.
C'est vrai, W, ça,
voilà. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il a quand même été suffisamment mal poli pour rester un peu dans le cœur.
Et mine de rien, ça mérite le coup d'être vu. En fait. Vraiment, il y a ce truc, il y a cette idée que moi, j'en étais resté sur une note assez négative. Et en fait, à la revoir, je me dis, ouais, c'est quand même bien qu'un film comme ça ait pu exister. C'est bien. Enfin, il y a des tentatives d'expérimentation qui sont assez dingues. Et comment dire, encore une fois, même si je reste sur le fait que c'est pas un film extrêmement subtil, quoi. Encore une fois, ça mérite d'envoyer une grenade dans la gueule de quelques personnes mal intentionnées. Donc c'est pas, comment dire, c'est toujours salvateur, même si bon, bah, ça a pris un petit coup dans l'aile, puisque on parle plus vraiment de ça sous cette forme-là aujourd'hui, quoi. Voilà, merci Rafik.
Merci Steph.
Merci Alain, merci à la technique. Merci à ceux qui nous suivent. Merci en fait pour ça, ceux qui nous typent. On se retrouve la prochaine fois avec un film un peu plus léger quand même, je crois, Raph. Hein.
On n'en dit pas toi. Trop, ouais.
Voilà, ouais. Merci à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.